Suivez Priorité Santé avec les sociétés Sunois Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sunois Assurance. Sunois Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous allons parler des dérives, des pratiques douteuses, voire dangereuses, dans le domaine de la santé. Les charlatans et autres faiseurs de miracles qui exploitent les personnes en situation de faiblesse, des curieux en quête de réponses, des familles éprouvées par la maladie à la recherche de solutions ou qui tout simplement profitent de la crédulité. Gourous, guérisseurs, dangers publics dans la mesure où ils peuvent écarter les patients de soins indispensables, manipulateurs lorsqu'ils utilisent leur ascendant, leur force de persuasion pour exploiter certaines formes de fragilité, isoler, créer de l'emprise. Les charlatans ont existé de tout temps dans toutes les régions du monde. Leurs méthodes, leurs pratiques évoluent. Et aujourd'hui, alors que l'on observe en Occident une défiance accrue vis-à-vis de la médecine conventionnelle, se développent de nouvelles approches du soin, des alternatives parfois recommandées et intégrées au protocole thérapeutique. Pas question, bien sûr, aujourd'hui de créer l'amalgame entre ces soins complémentaires ou traditionnels reconnus et ce charlatanisme, plutôt d'en comprendre le fonctionnement, d'alerter sur l'existence de ces pseudo-thérapies soignant illuminés, courants fumeux, qui pourraient presque prêter à rire s'ils ne mettaient en danger la santé physique, psychologique et financière de celles et de ceux qui en sont les victimes. Enquête sur les dérives thérapeutiques d'aujourd'hui, c'est ce que l'on peut lire sur le bandeau de votre dernier livre qui s'intitule « Gare aux gourous ». Georges Fenech, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député honoraire, ancien juge d'instruction, ex-président de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et votre livre est publié aux éditions du Rocher. En ligne avec nous, docteur Jean-Jacques Avrane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste et vous présidez le conseil départemental de la ville de Paris de l'Ordre des médecins. Un véritable médecin, lui aussi grand connaisseur de l'histoire de la médecine, on le retrouvera en cours d'émission, professeur Jean-Noël Fabiani, chef de service cardiovasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou et professeur à l'université Paris Descartes. Et puis nous joindrons en Côte d'Ivoire le professeur Francis Akindes. Il est sociologue, directeur des programmes scientifiques de la chaire UNESCO Bioéthique à l'université Alassane Ouattara de Boaké. En fin d'émission, on va parler du lancement de la compétition RFI Challenge App Afrique pour développer des solutions numériques, mobiles, web, innovantes. Cette année, la santé, la riposte aux épidémies au cœur de l'opération. On va donner la parole à l'un des partenaires de cette cinquième édition, Stéphane Héloïse Gras, directrice exécutive de Digital Africa.
Priorité santé sur RFI.
On parle donc de ces dérives thérapeutiques, Georges Fenech, je disais tout à l'heure, dangereux, c'est un fait, même si certaines pourraient presque prêter à sourire. Dans votre livre, vous dressez un inventaire impressionnant de ces pratiques qui relèvent du charlatanisme sur le sol français. Alors, on va bien sûr essayer de définir ce charlatanisme, mais d'abord, peut-être une illustration pour se donner une idée. Je suis restée bouche bée, c'est le cas de le dire, en apprenant que le respirianisme existait. Bien sûr, ce n'est que l'un des façons d'appâter, on va dire, j'ai envie de dire, pas le client ni le patient, plutôt le gogo. C'est quoi le respirianisme?
Alors, c'est le cas extrême que vous citez. Il est presque caricatural, mais il est bien réel, malheureusement. Il a été théorisé, mis au point par une Australienne, Hélène Green, qui se fait appeler Jasmuen et qui prétend ne plus se nourrir depuis des années et des années, excepté une nourriture qu'on appelle le prana, c'est-à-dire qu'elle se nourrit d'air et de lumière, comme une plante. Et malheureusement, elle a beaucoup d'adeptes dans le monde, environ 10 000. Elle est venue faire aussi des séminaires en France, en Ardèche plus précisément. Et on surveille ça de très près parce que ces jeûnes qui sont des protocoles de 21 jours, etc., peuvent avoir des conséquences dramatiques. Il y a eu quelques décès, effectivement, dans le monde, mais on voit bien l'emprise mentale qu'on peut exercer avec un certain charisme et tout à faire croire l'incroyable, c'est-à-dire qu'elle avait trouvé le remède de la faim dans le monde. On allait tous se nourrir de prana.
D'air. Tout simplement.
D'air et de lumière.
Oui, en général,
on
se rend compte assez vite que ça marche pas très bien. Georges Fenech, justement, votre parcours, magistrat depuis très longtemps, spécialiste dans les dérives sectaires. Il y a le terme de gourou, il y a cette manipulation mentale, une quête de spiritualité. Tout ça se mélange à la santé. C'est un cocktail particulièrement dangereux.
Oui, mais je précise tout de suite que les dérives thérapeutiques ne se résument pas uniquement au phénomène sectaire. Toutes les sectes ont une dimension santé, que ce soit l'Église de Scientologie avec la Dianétique, même l'Ordre du Temple Solaire. On y rentrait par le biais de la santé. Hein. On sait comment ça s'est terminé, malheureusement.
Avec de nombreux morts, hein, pour nos auditeurs qui ne seraient pas au courant.
Dans l'air-corps, oui, bien sûr. Mais toutes les sectes et les microstructures qui fleurissent partout aujourd'hui. Mais cette dérive thérapeutique, elle est au-delà du phénomène simplement sectaire. Elle touche à différents milieux, ça n'arrive pas qu'aux autres, et ça n'arrive pas qu'aux personnes crédules. Hein, je vous entendais dans votre propos très juste, mais j'ajoute, moi, que ça peut arriver à n'importe qui. Mmh. Je cite d'ailleurs l'exemple le plus extraordinaire, c'est celui du plus grand génie de notre époque, hein, le fondateur d'Apple, Steve Jobs, qui est tombé entre les mains d'un pseudo-chirurgien californien, alors qu'il était atteint d'un cancer du pancréas et qu'il a soigné avec du jus de citron, des cataplasmes, et qui va mourir prématurément, selon son biographe. Donc attention, ça n'arrive pas qu'à des personnes fragiles, ça peut arriver à chacun d'entre nous.
Évidemment, on utilise la détresse quand on est malade, quand on est face à des maladies particulièrement difficiles. On cherche, en même temps, c'est très humain de vouloir trouver une solution.
Bien sûr, on ne peut pas blâmer des parents qui cherchent des solutions de la dernière chance pour leurs enfants, autistes par exemple, ou des gens atteints d'une pathologie lourde qui cherchent, mais c'est tout à fait normal. Simplement, attention, il y a vraiment une prudence à observer parce que derrière, vous les appelez des charlatans, ce sont des escrocs, voire des criminels. J'ai tellement connu de souffrances et de cas quand j'exerçais la mission ministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Cette jeune femme de 37 ans atteinte d'un cancer du sein qui était soignable et guérissable et qui tombe entre les mains de deux médecins qui pratiquent le Graal et qui vont la couper de la chimiothérapie pour des jeûnes, encore une fois, et qui va mourir à 37 ans, mère de famille, dans des conditions atroces. Vous voyez, des exemples comme ça, je pourrais en citer. Des condamnations, il y en a eu, mais c'est un phénomène tellement répandu en France, tellement
répandu. Est-ce que vous dites que c'est de plus en plus d'actualité, que on va dire ça s'appuie sur le terreau de la défiance à la médecine conventionnelle, ou c'est vraiment quelque chose qui a existé de tout temps? C'est un phénomène, on va dire, millénaire et qui est pas davantage amplifié aujourd'hui qu'hier, parce qu'il y a eu aussi dans les années 70 tout ce retour à la nature, au naturel, qui a pu aller vers ce type justement de démarche. Est-ce qu'on est aujourd'hui davantage confronté à cela?
Oui, vous avez raison de rappeler, c'est un courant millénaire bien sûr, mais en Occident qui est arrivé dans les années 60.
Le New Age, etc.
Le fameux courant du New Age, le retour à la nature, tout cela et n'est pas critiquable, mais on voit les conséquences au niveau de la santé. Alors les raisons, effectivement, c'est d'abord, la médecine ne peut pas tout soigner, donc c'est un échec de la médecine qui fait des progrès considérables. Mais quand il y a maladie incurable, on cherche. Et puis, il y a aussi les grands scandales. Les grands scandales médicaux et sanitaires et pharmaceutiques. On se souvient, le sang contaminé, le Mediator, entre autres, qui ont entamé la confiance. Et puis, il y a une baisse de vigilance, une baisse de la garde des pouvoirs publics. Quand vous parlez de charlatans, ces charlatans, aujourd'hui, ont tapis rouge dans les universités, où on délivre des pseudo-diplômes de kinésiologie, de reiki, de naturopathie, ce qui donne quand même un vernis officiel et donc qui peuvent induire en erreur les patients. Je le dis très clairement, les hôpitaux de Paris, la PHP, qui font rentrer aujourd'hui toutes sortes de pseudo-guérisseurs qui viennent apporter des compléments. Je pense aussi au Reiki, à la kinésiologie, à la sophrologie, à la réflexologie plantaire.
Oui, mais Georges Fenech, il y a des fois où ça peut soulager, faire du bien, la sophrologie par exemple.
Sophrologie, vous avez raison.
L'arrivée d'un bébé, c'est quelque chose qui... Il y a du yoga, il y a des pratiques de respiration qui sont quand même des choses éprouvées et positives.
Oui, à condition de ne pas rompre avec le soin conventionnel et de ne pas tomber entre les mains d'un aigre fin.
Docteur Jean-Jacques Avran, on vous retrouve, Ordre des médecins. On va revenir à la définition du charlatanisme. Pour vous, pour cette institution, vous êtes vous-même médecin généraliste, un charlatan, c'est quoi précisément ?
Tout d'abord, je voulais revenir sur ce que disait Monsieur Fenech. Je suis tout à fait d'accord avec lui et je pense que, en tant que médecin, je vois bien que le désarroi des patients face à la maladie ou au pronostic grave peut les amener à être beaucoup plus vulnérables et à être dépendants de certaines sectes ou gourous. Pour le Conseil de l'Ordre, tout ce qui est le charlatanisme et tout ce qui est les pratiques qui seraient en dehors des soins consciencieux que nous pouvons donner et qui ne sont pas qui ne reposent pas sur les données acquises de la science.
Mais il y a des pratiques déviantes qui peuvent être le fait de, on va dire, de thérapeutes autoproclamés, mais c'est aussi des fois le fait de véritables médecins diplômés. Comment est-ce qu'on fait quand justement on réalise, quand on est à l'ordre des médecins, au conseil, qu'il y a un confrère qui a des pratiques douteuses, on va dire par exemple un dentiste qui vous propose de prendre votre pouls, la kinésiologie qui va vous parler des traumatismes de votre petite enfance alors que vous êtes venu vous faire soigner un abcès des dents?
Eh bien, bon, tout d'abord, moi, je ne m'occupe pas des dentistes, mais néanmoins, si un médecin vient et nous dit ce problème-là, en tout cas, a des pratiques qui ne semblent pas conformes, bien évidemment, on va d'abord lui demander des comptes. Il faut savoir que le problème du Conseil de l'Ordre, c'est que nous n'avons pas de pouvoir d'enquête. Donc souvent, nous sommes en relation avec l'Amivilude ou d'autres organismes qui nous ou des patients qui font des familles de patients qui nous font des signalements. Mmh. Et c'est à partir de ces signalements que nous traitons les dossiers. Bien évidemment, nous allons interroger le médecin et les moyens que nous avons vis-à-vis d'un médecin, c'est de le déférer devant la chambre disciplinaire si le conseil estime qu'il sort entre guillemets des clous.
Georges Fenech, vous vouliez réagir justement sur le pouvoir du Conseil de l'Ordre, sur les garde-fous à mettre en place?
Écoutez, moi je veux saluer le travail qui est fait par le docteur Jean-Jacques Avran au nom du Conseil de l'Ordre départemental de Paris. Mais permettez-moi de vous dire, docteur, quand j'étais président d'Amivilude, je me suis vraiment, vraiment heurté à une inertie des conseils de l'ordre des médecins départementaux. Il fallait voir à quel point c'était difficile d'obtenir des enquêtes, d'obtenir des signalements. Je crois que le conseil de l'ordre des médecins, d'une manière générale, est un peu tétanisé dans la mesure où on est dans un domaine de liberté du soin. Et savez-vous combien la Mivilude estime le nombre de médecins aujourd'hui qui pratiquent toutes ces techniques non éprouvées? Environ 4000. Combien de médecins, sans le dire, pratique aussi la médecine anthroposophique sur laquelle il y aurait beaucoup, beaucoup à dire. Vous vous félicitez de 10 enquêtes affaires pénales en cours, mais qu'est-ce que c'est? C'est une goutte d'eau dans un océan. Aujourd'hui, vous le savez, il y a à peu près 60% des Français qui utilisent toutes ces techniques. Il y a beaucoup de drames, beaucoup de souffrances. Vous n'avez pas les moyens d'enquête, vous venez de le dire. Vous faites ce que vous pouvez, mais franchement, les médecins ne sont pas assez vigilants pour protéger les patients contre les charlatans.
Docteur Jean-Jacques Avran, j'imagine que bien sûr vous voulez répondre à ce qui vient d'être dit. Sur le manque de moyens, est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète au jour le jour? Est-ce que vous avez justement des doléances en la matière de dire si on pouvait faire plus, eh bien on aurait envie de le faire, on souhaiterait vraiment le faire?
Alors tout d'abord, il faut savoir que pour entreprendre une action, il faut que l'ordre soit informé de l'existence des agissements. Il faut savoir que l'ordre n'a pas le pouvoir d'enquête et que nous ne sommes pas une juridiction. En fait, si nous n'avons pas de signalement, si la Mivilude nous informe pas, si la famille nous informe pas, nous ne pouvons pas deviner ce qui se passe. Bien évidemment, il est hors de question de se laisser ce type de pratique se développer. Bien évidemment, aujourd'hui, le Conseil de l'Ordre est très vigilant. Quand je parlais de 10 affaires pénales en cours, c'était pour Paris simplement, et encore, c'était hors des affaires qui ne sont pas forcément sectaires, mais qui peuvent être apparentées à d'autres types de pratiques. Mais bien évidemment, nous ne laissons rien passer. Nous avons une procédure aujourd'hui d'expertise sur les compétences, qui nous permet de demander à ce que le médecin soit entendu, et de pouvoir un peu mieux comprendre ce qui se passe. Cette possibilité d'expertise est toute récente et croyez-moi, nous l'exploitons au maximum que nous pouvons.
Quand il y a sanction, ça se traduit concrètement par quoi pour un médecin en exercice qui a, on va dire, dévié de son serment ne pas nuire?
Écoutez, les sanctions peuvent aller jusqu'à la radiation du médecin. Il peut y avoir l'échelle des sanctions varie d'un avertissement, d'interdiction temporaire jusqu'à la radiation.
Vous savez comme moi, docteur, monsieur le président du conseil départemental, qu'il y a beaucoup de vos confrères, quand je dis beaucoup, c'était un chiffre qui n'est pas insignifiant, qui, d'initiative, eux-mêmes se font radier du conseil de l'ordre des médecins pour pouvoir mettre une belle plaque de naturopathe ou se lancer dans ces médecines nouvelles, alternatives. Donc on a là un vrai sujet sur lequel les Français ne sont pas suffisamment informés. On manque d'informations. Le ministère de la Santé aussi n'informe pas suffisamment. Lorsque nous avions créé avec le directeur général de la Santé, Didier Houssin, nous avons créé le groupe d'appui technique qui était chargé d'évaluer ces pratiques pour informer le public sur les quelques 400 pratiques non éprouvées recensées dans le pays. On en est aujourd'hui, 12 ans plus tard, à péniblement 9 évaluations, voyez-vous. Donc on sent bien qu'il y a beaucoup de réticences. Et lorsque le président national de votre ordre a été auditionné par le Sénat, il le dit très clairement, on est très démunis. En même temps, lorsqu'on fait des signalements à la justice, ça n'aboutit pas, donc où les sanctions sont insignifiantes. Donc tout cela est très décourageant parce qu'il y a une forme d'omerta dans le pays et beaucoup, beaucoup de victimes, beaucoup de patients sont victimes.
Docteur Jean-Jacques Avran, un dernier mot.
Oui, je vais vous le dire, il n'y a pas d'omerta au niveau du Conseil de l'Ordre. Soyons clairs, le problème, je vais vous donner un exemple, c'est qu'il y a eu un défaut de un médecin qui refusait de vacciner les patients il y a peu de temps, il a été radié à vie. Le problème, c'est qu'on a un problème de la preuve et deux, le problème du signalement. Mais croyez-moi, nous sommes très actifs là-dessus et nous travaillons en collaboration, par exemple, avec le médecin auprès du procureur de la République et avec d'autres organismes. La Miviludes, et aujourd'hui, il est hors de question d'avoir de ne pas prendre en compte ce type de problème.
De se montrer passif. Merci beaucoup, docteur Jean-Jacques Avran, d'avoir répondu à nos questions. On retrouve un autre invité en ligne, professeur Jean-Noël Fabiani, bonjour.
Bonjour, madame Paré.
Alors, je disais tout à l'heure, vous êtes un fin connaisseur de l'histoire de la médecine. D'ailleurs, vous y avez consacré une bande dessinée illustrée par Philippe Berkovici, l'incroyable histoire de la médecine, revue augmentée aux éditions des Arènes. Professeur, on y croise de grands charlatans dans cette histoire de la médecine. Est-ce qu'on peut citer des noms de ceux qui ont marqué par leurs méfaits, justement, cette histoire ?
Ah bah écoutez, c'est pas compliqué. Le charlatanisme existe depuis le début de la médecine. Hein. Au paléolithique, qui s'appelait l'homme médecine ou la femme médecine avait certes un certain nombre de recettes qui étaient des vraies recettes avec des plantes, mais également invoquait les dieux, invoquait la magie pour tirer du pouvoir. Et ça a toujours été comme ça dans l'histoire de la médecine. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, il y a des charlatans qui s'engouffrent en quelque sorte dans les insuffisances ou dans les manques de la médecine allopathique qui ne règle pas tout et qui n'a pas la prétention de tout régler. Mais ces gens-là, bien sûr, devant le dénuement, la détresse souvent de certains patients, eh bien s'engouffrent et proposent, c'est une affaire de foi à ce moment-là, proposent des choses absolument invraisemblables. Et on est étonné de la crédulité des gens et même, pour tout dire, de la crédulité de gens qui sont particulièrement formés. Et là, je dois reconnaître que le livre de Georges Fenech est formidable parce qu'il permet de faire le bilan de la situation qui est absolument catastrophique.
Il n'y a pas de classe sociale pour les gogos. Moi, quand je dis gogos, ce n'est pas dénigré hein, parce que ce sont des victimes. Mais vraiment, ça peut être tout le monde dans un moment de vulnérabilité ou de quête de foi. On peut vraiment tomber entre les mains de quelqu'un de malveillant avec un regard rétrospectif, justement, qui est le vôtre, professeur Fabiani. Est-ce qu'on va dire que certaines pratiques aujourd'hui abandonnées, je pense par exemple, bien sûr on pense à Molière, lavement à tout va, saignée à tout va, est-ce que ça relève du charlatanisme ou ça relève de pratiques de santé dépassées ?
Ça relève, là, en l'occurrence, que vous signez le fameux « saignare et purgare que Molière met en exergue avec Diafoirus, eh bien, n'est que la traduction d'une pratique dépassée, qui était celle d'Hippocrate et de Galien, parce que le but était de chasser les mauvaises humeurs, pour retrouver l'équilibre de l'organisme. Et les mauvaises humeurs, elles sont dans le sang, donc on fait une saignée pour les chasser du sang, et puis on purge, parce que, bien sûr, les matières fécales ne peuvent être que malsaines. Donc, si vous voulez, c'est dépassé, mais c'est quand même des des pratiques qui ont duré 2000 ans quand même. Et tous les médecins les ont suivis pendant 2000 ans. Il a fallu l'effort d'un certain nombre de médecins qui sont opposés en particulier à ce que prônait l'Église, à ce que prônait l'ensemble du corps médical pour imposer une nouvelle vision plus scientifique de la médecine, mais c'est le combat. Encore actuellement, ne rêvons pas, on ne fait plus beaucoup de saignées, heureusement, et on fait rarement des lavements, mais il y a d'autres pratiques qui sont des pratiques dont on est obligé, les médecins scientifiques, contre lesquels on est obligé de s'opposer. Et elles existent aujourd'hui.
Georges Fenech voulait réagir,
oui,
justement.
Cher Jean-Noël Fabiani, bonjour.
Bonjour, monsieur Fenech.
Mais... laissons ces questions de saigner, c'est pas du tout ça dont on parle, pardon. On est face à un marché colossal qui porte sur des centaines de milliards, qui a envahi le monde entier et l'Occident également. Il suffit d'aller vous promener porte de Versailles au salon du bien-être et vous allez voir fleurir tous ces instruments magiques.
Oui, vous citez, c'est des milliers
de
et des milliers
physique,
d'euros. Hein.
Quantique, etc., qui sont vendus à prix d'or, sous l'œil tolérant des pouvoirs publics. C'est un marché aujourd'hui qui a gagné la partie. La médecine allopathique a perdu aujourd'hui.
Mais face à ce type de pratique, des machines
ma phrase,
miracles, juste, oui, allez-y.
Bon, allez-y.
Non, je voulais juste vous demander, par rapport à ces machines magiques que vous citez, face justement à l'absence de garde-fous, quel type, justement, d'institution pourrait arriver et
mais
dire, voilà, c'est interdit ? La direction des fraudes ?
Mais la direction des fraudes, la DCGRF, l'inspection de la santé, en fait, tous doivent se mobiliser pour alerter, bien qu'on soit dans un monde, dans un domaine de liberté, vous le savez, on a le droit de se soigner comme on a le droit de se pas soigner, bon, c'est la loi Kouchner, respectons cette liberté fondamentale, mais à condition d'informer le public, de les informer des dangers que cela représente. On ferme les yeux sur la médecine anthroposophique aujourd'hui, on le sait.
Expliquez-nous ce que c'est, parce que tout le monde ne sait pas forcément
pas
ce qu'il y a derrière ce mot.
C'est très ésotérique, hein, c'est le 19e siècle. Bon, voilà, on a décrété que le gui, par exemple, le gui est une plante qui a échappé à l'attraction terrestre, qui présente des propriétés exceptionnelles et qui va soigner le cancer.
Donc
et
on en tire des produits.
On vous fait des injections de gui autour de la tumeur. Mais on sait très bien que tout cela est extrêmement dangereux, mais on ferme les yeux. On va même jusqu'à autoriser pendant des années la délivrance d'un certain nombre de produits, de médicaments, le Vilbum par exemple, qui a circulé longtemps et qui continue à circuler. Tout ça sous l'œil, je vais dire, très tolérant, inactif, inerte des pouvoirs publics. Moi, je pense que les médecins, aujourd'hui, ont capitulé quelque part. Que ce soit à la PHP, on voit rentrer tous ces maîtres Reiki, ces kinésiologues, etc. Mais c'est effrayant de voir que des patients ne sont même pas informés de cela et servent de cobayes. Ça a été révélé par la commission sénatoriale. Et avec la bénédiction d'académies de médecine qui ont capitulé. Voyez-vous ? Donc moi je dis, quand on est médecin, quand on est un grand professeur, comme je le fais, il faut absolument alerter le public, ne pas laisser croire que notre médecine n'est pas bonne, que notre médecine est dévoyée. Moi j'entends dire que des médecins sont... La médecine allopathique est charlatanesque. On est en train de renverser le problème.
Je ne sais pas où vous l'entendez, en tout cas c'est pas dans le cadre de cette émission.
Non, je l'ai entendu sur notre émission de vos confrères. Donc on est quand même dans le pays de Pasteur. Il faut arrêter de tomber dans ces illuminations qui aujourd'hui ont pignon sur rue, quoi.
Alors vous restez avec nous, messieurs, on va marquer une petite pause en musique tout de suite dans Priorité Santé avec Oumou Sangaré, ce titre Kamelemba.
Thank you.
Oumou Sangaré sur RFI Priorité Santé, on parle toujours du charlatanisme avec l'auteur d'un livre documenté. Ce livre, c'est Gare aux gourous. Vous en êtes donc l'auteur, Georges Fenech. Toujours avec nous, professeur Fabiani, cardiologue. Et vous avez signé il y a quelques années de cela un autre livre intitulé Le chirurgien et le marabout, expérience découverte de l'Afrique, approche très différente du soin, avec le tradi praticien loin des clichés. Acteur incontournable, c'est très important de l'indiquer dans cette émission parce qu'on a eu des réactions sur la page Facebook de l'émission, sur les tradis justement. Lorsqu'il est l'héritier d'un véritable savoir, ce tradi, c'est un acteur de soins essentiels.
Alors absolument, c'est ça qui est intéressant, c'est que moi je m'étais retrouvé bien sûr comme coopérant en Afrique dans un pays qui s'appelait la Haute-Volta à l'époque et maintenant le Burkina Faso, et mon correspondant numéro un c'était bien sûr le marabout du village, et celui-ci avait incontestablement des recettes qui avaient été transmises par ses ancêtres lui-même, qui avaient une efficacité. Alors il ne m'a jamais donné ses secrets, soyons clairs, et il avait l'intelligence de faire bien le tri entre ce qui devait revenir au chirurgien que j'étais et ce qu'il pouvait soigner par ses amulettes d'un côté et par ses médicaments à base de plantes de l'autre. Alors, bien entendu, il ne faut pas rejeter, comme toujours, d'un revers de main un certain nombre de traditions qui sont des traditions séculaires et qui peuvent être efficaces, parce que soigner par les plantes, qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui? Finalement, on a pris ces plantes, on en a tiré les substances actives et on les a transformées en comprimés. Mais au départ, la plupart des médicaments sont quand même issus des plantes. Donc, il ne faut pas les renverser d'un revers de main. Non, mais il faut quand même, bien sûr, en prendre et en laisser. Il y avait, par exemple, des choses que faisait le marabout qui étaient sur le plan médical complètement des aberrations. Mais d'autres, je dois le reconnaître, pour les avoir vécues, qui n'étaient pas complètement stupides et qui étaient même efficaces. Donc c'est vrai que c'est difficile. Et d'ailleurs, M. Fenech le dit parfaitement dans son livre, que tous les médecins doivent lire absolument. Mais il dit que parfois c'est difficile de faire la part des choses. Et c'est pour ça qu'un certain médecin de bonne foi, ou qui veulent voir ce qui se passe un petit peu dans d'autres traditions, peuvent être un peu perdus quelque part et peuvent se laisser entraîner et aller trop loin dans l'acceptation de ce charlatanisme, parce que quelque part, il y a du charlatanisme. Et derrière le charlatanisme, comme il le dit lui-même, il y a toujours de l'argent.
Il y a de l'escroquerie.
Il y a de l'escroquerie, il y a de l'argent, parce que c'est un gros pouvoir financier. Et notre marabout vivait dans un pays pourtant très, très, très pauvre. Il vivait richement, parce qu'il avait, bien entendu, autour de lui, une foule de gens qui venaient le consulter. Donc, vous voyez, et c'est la même chose qu'on soit au fin fond du Burkina Faso, ou quelque part à Paris, et à Paris, bien entendu, avec le pouvoir, comme le disait M. Fenech, de ce qui peut être maintenant les médias, de ce qui peut être la publicité, ce sont des sommes absolument considérables qui sont en jeu. Derrière le charlatanisme, il y a toujours de l'argent.
Alors, on va avoir un autre interlocuteur, là, directement sur le continent africain. Important, bien sûr, professeur Francis Akindes, bonjour.
Bonjour.
Je disais tout à l'heure, un sociologue, directeur des programmes scientifiques de la chaire UNESCO bioéthique à l'université de Bouaké, l'université Alassane Ouattara. Professeur Akindes, on va dire bien sûr contexte très différent, difficulté d'accès aux soins, on n'a pas le système de santé tel qu'on peut le connaître en Europe. Le charlatanisme est pourtant bel et bien présent en Afrique subsaharienne avec une cohabitation avec les pratiques traditionnelles. Comment justement pour nos auditeurs bien expliquer ce dont nous parlons en ce moment, ces dérives, ces pratiques qui sont, on va dire, inacceptables, d'une autre manière de prodiguer les soins?
Alors, ces formes de thérapie curative, pour la plupart du temps, s'inscrivent dans une approche de guérison alternative. Parce que ça repose sur des formes de construction culturelle et très personnelle de l'histoire de la maladie et pour laquelle on recourt à cette forme de thérapie. Généralement, ces maladies sont considérées comme un désordre physiologique dont les origines sont sociales. Donc du coup, on soigne avec la médecine conventionnelle occidentale, mais on soigne aussi le côté désordre de cette maladie lié au social. Alors du coup, les réponses peuvent être simultanées. Ça peut passer par le chemin du charlatan, donc soit à travers ce qu'on appelle la villageothérapie, c'est-à-dire retourner au village pour solliciter les compétences des praticiens, ou même encore rester en ville et avoir accès à ces soutiens de tradithérapeutes. Ça peut passer aussi par le chemin de la prière, parce que il y a des pasteurs qui proposent justement ces thérapies curatives, et surtout dans les situations de maladies graves où la maladie elle-même est considérée comme je viens de le dire tout à l'heure, un désordre dans le corps.
Il y a des bons tradis, il y a de vrais charlatans. Professeur Akindes, c'est une question de réputation bien sûr, mais aux yeux de la population, comment les gens dans la rue, comment les gens au village arrivent à faire la part des choses? Est-ce qu'il y a vraiment des tradis qui sont très recherchés ou d'autres où de bouche à oreille on se dit attention, celui-là c'est un mauvais, c'est vraiment un charlatan?
Alors, dans les contextes villageois ou même urbains, on est dans l'ordre de la croyance. Mmh. Alors, c'est dans cet ordre de la croyance que se logent les faussaires. Alors, il faut tout de suite préciser, les faussaires sont parmi les tradithérapeutes, mais tous les tradithérapeutes ne sont pas des faussaires.
Tout à fait. Mmh.
Alors, toute la problématique, c'est comment distinguer le vrai de l'ivraie. Et car il y a des tradicaments qui trouvent le fondement, comme vient de le dire quelqu'un...
Le professeur Fabiani tout à l'heure, oui.
Le professeur Fabiani, donc, qui trouve le fondement dans les savoir-faire ancestraux en matière de tradit médecine. Et cette tradit médecine est faite de substances complexes d'origine végétale, minérale et animale, propres à chaque pays. Mais là, on reste confronté au problème de dosage vu du point de vue de la médecine conventionnelle, mais aussi au problème de brevet selon le tradit praticien, parce qu'ils ne veulent pas livrer leur savoir, parce qu'ils considèrent qu'ils vivent de cela, et qu'ils ne peuvent pas livrer de quoi ils vivent sans avoir la garantie que ce savoir acquis peut continuer à leur profiter.
Alors, influence, voilà. Dérive tout de suite, je vous propose d'écouter cette illustration. Hein. C'est le témoignage d'une auditrice, Francine, elle est infirmière, elle nous appelle du Cameroun et elle raconte sur le répondeur de Priorité Santé.
Bonjour Caroline Paré, bonjour à l'invité du jour. Je m'appelle Francine, je vis dans la ville du Douala. Je veux faire un témoignage ici concernant le cas d'un jeune homme âgé de 20 ans que nous avons reçu l'année dernière aux urgences, qui est venu avec des signes très inquiétants. En fait, ce jeune homme était un ancien malade séropositif et ces signes sont apparus parce que ce garçon avait arrêté brutalement son traitement sous l'influence du pasteur de son église qui leur a dit que c'est la prière qui guérit cette maladie. Il a été bien évidemment suivi dans notre hôpital et son état s'améliorait. Après avoir passé beaucoup de jours là-bas, son état s'améliorait. Mais un matin, sa maman a décidé de sortir contre avis médical avec son enfant. On s'est opposé, mais elle nous a menacé, elle est partie avec son enfant. Au bout de quelques semaines, on apprend par la suite que ce garçon est décédé. Et selon les investigations, les enquêtes que nous avons menées, on se rend compte que cette dame avait été influencée par la vigile de l'hôpital, qui leur a fait comprendre que ici à l'hôpital, elle dépensait beaucoup d'argent et qu'elle connaissait un marabout qui traitait cette maladie à base des plantes. Chose qui nous a fait mal parce qu'un jeune homme qui devait vraiment vivre a perdu sa vie comme un jeu. Et ce phénomène est trop récurrent dans notre hôpital. Nous recevons des pasteurs, des prêtres qui viennent faire des pratiques bizarres. Et quand on s'oppose, ils nous menacent, ils veulent nous taper dessus. Donc j'interpelle les frères et sœurs à être vigilants concernant ce problème-là.
Vigilance pour nos auditeurs, hein, cet appel de Francine. Professeur Akindes, est-ce que les autorités dans les pays d'Afrique subsaharienne ont les moyens ou mettent en place des choses pour éviter ce genre de choses? On comprend, très dangereux, un jeune homme de la vingtaine, il y avait les traitements contre le VIH-Sida, les fameux antirétroviraux qui permettent de vivre et de bien vivre. Et voilà qu'il a arrêté, voilà qu'il a été tiré hors de l'hôpital et il en est mort.
Alors, l'on a le sentiment, quand on voit les autorités, le comportement des autorités sanitaires, je dirais même au-delà, face à ces phénomènes, qu'elles ont l'air de dire, puisque nous ne pouvons pas proposer mieux, ben, il ne faut pas empêcher les gens de recourir à ce à quoi ils peuvent recourir
pour s'en sortir.
On baisse les bras. Or, justement, face à ce phénomène, la responsabilité des États doit être absolument engagée pour continuer à protéger les populations contre ce que j'appelle un dol médical. Pour moi, c'est un dol médical. Alors, donc, du coup, il faut, à un moment donné, que les politiques nationales de santé s'organisent pour être plus protectrices vis-à-vis de ces thérapies alternatives, d'où qu'elles viennent. que ce soit des pasteurs véreux ou des tradis praticiens aux compétences douteuses.
Georges Fenech, j'imagine que ce qui vient d'être dit, c'est un écho auprès de vous. On voit que, on va dire, peu importe où nous sommes dans le monde, même combat, pas assez de moyens, pas assez d'informations, de sensibilisation et de façon objective d'aller contre ce type de dérive, on l'a bien compris, très très dangereuse.
Nous adressant à nos amis africains, moi je dirais d'abord qu'il faut être respectueux des traditions, respectueux de ce que peuvent représenter les marabouts dans leur village, de culture, de transmission de culture, certains étant le passage entre deux mondes qui en réalité sont continus, le monde vivant, le monde des esprits, le monde des arbres, tout ça on le sait, c'est une tradition, de même que les chamans qu'on trouve en Amérique latine surtout, mais aussi en Afrique, qui utilisent l'ayahuasca ou l'iboga au Gabon par exemple pour entrer en transe et rentrer avec les esprits, être capable de soigner, tout ça, bon, on le respecte. Mais il faut savoir aussi que en France, vous avez beaucoup, en Occident, de néo-chamans autoproclamés qui vont utiliser ces traditions à d'autres fins, et on en a des victimes, on a des histoires absolument terribles de jeunes Français ou Italiens qui en sont morts. Mais là aussi, en Afrique, on comprend le problème sanitaire n'est peut-être pas au niveau de l'Occident, et donc il y a un problème hospitalier, il y a un problème de soins. Et après tout, vous avez aussi des marabouts qui ont une très très grande expérience de l'herboristerie locale, qui sont capables de soulager, etc. Mais attention, quand on est face à une maladie, une pathologie lourde, ça ne suffit pas. C'est bien ce qu'il faut se dire. Et c'est le témoignage qu'on vient d'entendre, qui est très douloureux. Il faut faire confiance encore à notre médecine. Et Dieu sait si en Afrique, il y a des progrès et des médecins formidables.
Et ce qu'on voit aussi, ce qui est assez effarant, c'est que la médecine soit finalement très développée, très accessible, c'est pas pour autant que ces pratiques s'arrêtent, parce que on pourrait croire, quand on est dans un pays où on n'a pas accès aux soins, si on avait vraiment la médecine, on aurait des meilleurs médecins. Ça veut pas dire ça, parce que là, ce qu'on a entendu depuis le début de l'émission, on a d'excellents médecins, le professeur Fabiani est là pour nous le rappeler aussi. Mais à côté de ça, certains sortent du cadre, ou certains s'invitent dans le cadre, en proposant tout et n'importe quoi.
Oui, en profitant encore une fois de cette liberté du soin, sans aucun diplôme validé de médecine, vont se livrer à différentes thérapies qui ne sont pas éprouvées. Et tant qu'une thérapie n'est pas éprouvée scientifiquement, elle est sujette à caution, il faut le rappeler.
Alors, professeur Fabiani, on vous retrouve. On parle parfois de confrères, y compris très respectables, qui d'un moment... à un moment de leur carrière, eh bien, vont, on va dire, glisser vers d'autres pratiques. Est-ce que vous avez rencontré, vous, après toutes ces années d'expérience, des confrères tout à fait sérieux qui, du jour au lendemain, dévient, varient et se rendent, on va dire, responsables et coupables de choses que vous ne recommanderiez pas sur le plan de la santé ?
Oui, on voit bien qu'il y a des gens très connus. Le cas de Monsieur Benveniste, par exemple, qui est devenu finalement, alors que c'est un chercheur de très haut niveau, qui devient le porte-parole de l'homéopathie grâce à la mémoire de l'eau. Vous avez le prix Nobel, quand même, qui est récent.
Professeur Montagnier.
Le professeur Montagnier, qui... pourtant pasteurien, se met à critiquer les vaccins, se met à prendre des paris en quelque sorte sur des médecines qui ne sont pas qui n'ont pas fait leur preuve. Donc vous voyez, au plus haut niveau de notre profession, il y a des gens qui à un moment prennent une mauvaise voie et vont à fond dans cette mauvaise voie. Il y a eu aussi des cas de chercheurs qui deviennent qui proposent des traitements pour le cancer qui n'ont pas fait leurs preuves. Donc, même si on est formé à la méthode scientifique, même si on est persuadé que la médecine par les preuves est quand même la seule façon d'apporter des réponses actuellement, même si elles ne sont pas totales, mais d'apporter des réponses, eh bien, il y a des gens qui peuvent échapper. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est ce que relève M. Fenech dans son livre, c'est qu'un certain nombre de doyens, au prétexte maintenant de l'autonomie des universités, acceptent de faire des diplômes d'université sur des matières qui sont tout à fait discutables, et discutées d'ailleurs, Mais bon, en effet, il existe une espèce de permissivité absolument incroyable, même au sein de nos facultés de médecine françaises.
Georges Fenextra, notre conclusion, justement pour améliorer, on a bien vu qu'il y avait des choses à faire pour mieux protéger les populations. Est-ce que vous avez eu des retours, par exemple, bien sûr, ce livre, il est sorti il n'y a pas très longtemps, mais vous avez eu des retours des autorités de santé depuis sa publication par rapport aux manquements très concrets que vous soulignez ?
Sur le livre, pour l'instant, je n'ai pas de retour, sinon l'intérêt marqué par la profession médicale. Vous savez, moi, ça fait des années que je me bats contre ce phénomène, et c'est très compliqué, vraiment très compliqué, parce qu'encore une fois, c'est ce domaine de liberté constitue une sorte de frein. Et je pense que au fond, les médecins doivent réagir. Je pense notamment à tous ceux qui ont une responsabilité au niveau des académies de médecine. Ils doivent informer. C'est ça qui est important. Pour le reste, j'attends les critiques, je les connais, mais vous savez, à partir du moment où vous avez des intérêts financiers énormes en jeu, ils vont pas rester les bras croisés. Mais enfin, ça fait partie du jeu, je dirais.
Ça fait partie du jeu. On vous remercie tous les trois. Hein. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Merci à vous en ligne de Côte d'Ivoire, professeur Francis Akindes, pour votre éclairage. Merci à vous, professeur Jean-Noël Fabiani. À très bientôt dans Priorité Santé. Et merci de votre présence dans nos studios, Georges Fenech. Je rappelle le titre de ce livre, Gare au gourou, publié aux éditions du Rocher.
Priorité Santé sur RFI.
L'environnement, l'entrepreneuriat, cette année ce sera la santé, lancement de l'opération RFI Challenge App Afrique pour développer les solutions numériques, mobiles, web et innovantes. Priorité Santé s'associe donc directement à l'initiative avec des partenaires. Cette année, la santé, donc riposte aux épidémies, cinquième édition à laquelle France 24 est également associée cette année. Et on donne la parole Alain, l'une des partenaires de cette cinquième édition, Stéphane Héloïse Gras, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice exécutive de Digital Africa. Alors, il va y avoir la création d'une application web innovante dans le domaine de la lutte contre les épidémies. Tous les détails seront bien sûr consultables sur le site dédié. Le lien à retrouver sur la page de l'émission du jour. Stéphane Héloïse Gras, l'objectif, c'est bien de développer des solutions pratiques, très pratiques dans le domaine de la santé.
Oui, tout à fait. La raison pour laquelle Digital Africa est associée au Challenge App Afrique 2020 autour de la thématique du numérique dans la lutte contre les épidémies, c'est bien parce que nous croyons et nous sommes convaincus que le numérique et Internet et les applications mobiles qui en découlent aident à lutter contre la pandémie. On l'a vu, je pense, ces derniers mois en Afrique en particulier, où de nombreux pays ont déjà fait du numérique un fer de lance dans cette lutte.
On va sur l'information, on va sur les moyens de riposte. Les candidatures, elles sont ouvertes à qui ?
Alors, les candidatures sont ouvertes à tous les jeunes, développeurs, entrepreneurs, tous ceux qui savent, comment dire, concevoir et développer des applications numériques, mais également les chercheurs et tout cet écosystème d'acteurs qui permettent de créer ces solutions afin de mieux lutter contre la pandémie. On pense par exemple à des services en ligne pour contacter des spécialistes de santé ou pour développer de l'entraide sociale, pour gérer des flux de voyageurs. Ou bien pour lutter contre la désinformation et l'infodémie avec des chatbots pour dépister les cas, pour mieux les endiguer. Enfin voilà, le domaine des possibles est très très large et nous invitons toute cette jeunesse et cette créativité africaine à s'emparer du challenge pour montrer en quoi les solutions sont bien numériques et viennent d'Afrique.
Alors on dépose le dossier, donc tout ça sur le site internet, le lien sera mis. Après, c'est un accompagnement pour les finalistes, c'est bien cela ?
Tout à fait. Alors, les 10 finalistes de ce concours seront accompagnés par des incubateurs et des structures locales pour soit lancer et mieux développer leur projet, soit accompagner un peu mieux leur passage à l'échelle. Et donc, nous avons noué des partenariats avec une série de partenaires localement, au Burkina Faso, au Bénin, en RDC avec le Lumumba Lab, ou bien au Sénégal avec le Lab Innovation de la Société Générale. toute cette jeunesse est invitée à candidater en ligne sur le site de App Afrique, qui sera indiqué, j'imagine, à la fin de cette émission.
Absolument, absolument.
Et ils ont 2 mois pour candidater et déposer un projet, c'est-à-dire soit ils ont une idée d'une application mobile, d'un service qui pourrait vraiment rendre service dans la lutte contre la pandémie, soit ils ont déjà quelque chose et ils se disent il faut absolument qu'on en parle plus car je crois dans mon service, et bien nous les invitons à venir se présenter à ce concours, cette compétition.
Alors ce qu'on voit, c'est que c'est le secteur de la santé qui a été retenu cette année. On le dit souvent dans notre émission Priorité Santé, ce secteur de la santé, il s'appuie déjà sur les apports du numérique. Peut-être qu'une certaine partie d'entre nous ne sont pas au courant, mais vraiment, ça marche à la faveur de l'équipement très large de la population. Il y a déjà des solutions dans de nombreux secteurs. Par exemple, les médecins travaillent les uns après les autres, on va dire par exemple en dermatologie, pour se montrer quand on est dans un site reculé de santé, eh bien une lésion, pour avoir l'avis d'un spécialiste, puisqu'on le sait, ils ne sont pas très nombreux et souvent concentrés dans les capitales. La santé numérique, ça existe déjà en Afrique.
Tout à fait. On considère que le secteur de la e-santé est bel et bien déjà en place, et on l'a vu dans le cadre de d'autres pandémies, hein, que ce soit dans l'accès aux données de santé, dans la consultation, la télémédecine et la consultation à distance. De nombreux pays et villes africaines innovaient déjà et proposaient des services aux populations. Et nous, aujourd'hui, nous souhaitons encourager ce mouvement compte tenu de l'ampleur et de la taille de l'épidémie de la Covid-19. En développant aussi, par exemple, des solutions pour mieux accéder à Internet, pourquoi pas. L'idée de ce concours, c'est vraiment comment est-ce que le numérique aide à lutter contre la pandémie et à mieux vivre, en fait, en période de pandémie. Donc, nous souhaitons vraiment inviter toutes ces solutions, à la fois de télémédecine, de e-santé, à faire parler d'elles et à montrer que la lutte doit et passera par le numérique. Et on sait qu'en Afrique, c'est déjà le cas.
RFI Challenge, App Afrique, 5e édition. On va bien sûr en reparler dans Priorité Santé. Lancement aujourd'hui, clôture, la date c'est le 15 novembre. Bonne chance à toutes et à tous. Merci à vous hein, Stéphane et Loïse Gras d'apporter votre soutien à cette initiative. Rappel, le site dédié pour avoir tous les détails, vous retrouvez son adresse sur la page de l'émission. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare, réalise cette émission. Aujourd'hui, Ophélie Lassène et Juliette Bro, Jérémy Besset et Olivier Roux. Demain, nous parlerons des personnes de petite taille, le nanisme, prise en charge médicale spécifique, question d'intégration, la lutte contre les stigmatisations. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.